Oui, donc bienvenue aux ados, pré-ados, jeunes. Vous ne m'avez pas seulement sur le dos à l'école du dimanche, mais en plus ici, faudra faire avec. Je vais faire une interro après. Voilà. Bon, alors, on avait commencé, donc pour ceux éventuellement qui n'étaient pas là la semaine dernière, on est en train de travailler sur, à la base, j'ai commencé avec ce livre de Kuhn qui s'appelle « Les uns les autres ». Et comme j'ai dit la semaine dernière, que je n'avais pas trop lu, parce que je fais partie des gens plutôt qui aiment la solitude. Donc, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et disons que quand je vous parle ce matin, n'ayez pas l'impression que je vous parle d'une grande expérience personnelle, mais plutôt de ce que moi aussi je veux entendre. Je dois entendre. Donc, je me prêche à moi-même aussi. Il ne faut pas l'oublier. Alors, un petit rappel donc pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. On avait dit que la Bible nous parle sans cesse des uns des autres. Elle dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Genèse 2, 18. Les uns les autres, ça apparaît 100 fois dans le Nouveau Testament. Donc, il y a une grande insistance sur l'aspect relationnel de l'Église. 50 fois, c'est accompagné d'un commandement, un impératif, un ordre. Et 16 fois... c'est lié à aimez-vous les uns les autres. Ça fait beaucoup, hein, quand même. Et je pense que quand la Bible insiste sur quelque chose, c'est parce qu'elle sait que ce n'est pas facile pour nous, tout simplement. Voilà. Et donc, on prêche quelque chose de difficile ce matin. Alors, Sartre, évidemment, avait dit, et c'était très en vogue quand j'étais à la fac, l'enfer, c'est les autres. Et combien de fois dans notre vie, on a pensé ça? Non, vous allez me dire non, bien sûr, mais allez, soyons honnêtes. Et pourtant, Dieu, lui, nous a aimés le premier alors qu'on ne méritait rien. Et on a parlé donc du message biblique qui est d'abord vertical. Dieu nous a aimés, il s'attend à ce qu'on l'aime en retour. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Alors là, je pense qu'on en reparlera un petit peu la prochaine fois, parce que là, je vais essayer d'être assez rapide pour que vous puissiez sortir à l'heure à cause du Tour de France. Mais et ton prochain comme toi-même, ça suppose qu'on s'aime soi-même. Et ça, c'est quelque chose dont on reparlera. Et alors, la chose terrible, c'est que la vie chrétienne ne se vit pas tout seule. Elle se vit dans une communauté, dans un corps local, et aussi au niveau de l'Église universelle, mais dans un corps local. Et ça, c'est un problème. Parce que c'est facile d'aimer les chrétiens chinois, mais les chrétiens de son Église, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on les connaît, on connaît leurs défauts et surtout on ne les idéalise plus. Voilà. Alors, les uns les autres, ça s'adresse à tous les chrétiens. C'était une partie du message. Ce n'est pas seulement pour les responsables d'une œuvre, que ce soit des missionnaires ou des églises. Les uns les autres, ça s'adresse à tout le monde. Et ça aussi, ça complique les choses. Je ne peux pas dire « oui, mais moi... » Moi, ce n'est pas mon style ou ce n'est pas mon caractère. Ou, voilà, j'ai envie de râler sur les gens quand j'ai envie de leur exploser à la figure si j'ai envie. Non, les uns les autres, c'est pour tout le monde. Et ça, ça complique les choses. Et l'église locale, on avait dit, est une sorte de première étape. Pour arriver, une école de formation, pour arriver à mettre en pratique au-delà de l'église. Avec ses collègues de travail, avec les gens qu'on rencontre, etc., etc. Ça, alors là, c'est encore plus difficile parfois. Parfois, c'est plus facile, il y a certains moments, mais parfois, c'est aussi plus difficile quand on a un chef acariâtre ou, voilà, je pense à l'expérience de Florence qui a dû exercer ça avec un chef que personne ne supportait. Et elle a réussi parce qu'il a changé d'attitude, au moins avec elle. Et je pense que, voilà, c'est un message puissant. Mais je ne cache pas, pour moi, j'imagine pour vous, à moins que vous ayez déjà résolu ces problèmes-là, c'est un message difficile. Alors, quelques petits points avant d'aborder ce que je vous ai promis la semaine dernière, la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur, vous vous souvenez. Donc, un tout petit peu avant d'aborder ça, Kuhn parle d'un certain nombre de choses, donc un petit peu à bâton rompu. Le problème de la solitude, parce que les uns les autres, quand on est tout seul, qu'on est noyé dans une grande ville, dans son petit appartement, et qu'on connaît personne, par exemple, c'est pas évident les uns les autres, comment le pratiquer. On est dans une époque en plus où la solitude est énorme. Alors bien sûr, l'avantage de la solitude, c'est l'indépendance. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a un coup dur, Et je pense que ça explique aussi le nombre énorme de suicides. Mais il n'y a pas que pour les gens qui sont tout seuls. Les couples aussi peuvent être dans la solitude, repliés sur eux-mêmes. Et puis, bien sûr, ça a un avantage, hein. Un seul être vous montre et tout est dépeuplé, disait Lamartine. Voilà, on peut vivre à deux, être heureux, etc. Mais après, quand il y a des problèmes de travail, des problèmes de chômage, quand les enfants arrivent, où sont les soutiens? La famille, parfois, est loin parce que les gens, aujourd'hui, déménagent beaucoup pour le travail. Les amis sont sur Facebook. Et puis, on ne peut pas tout partager sur Facebook. Les déplacements pour le travail déracinent aussi ceux qui sont moins extrovertis. Les gens extrovertis, ça ne leur pose pas de problème, ils se font des amis en 8 jours. Mais ceux qui ne sont pas extrovertis, ça déracine. Et ils doivent affronter ça tous les deux, et du coup tout seul. Parfois, il y a très peu de familles de part et d'autre. Ou alors les familles ont été rejetées pour des raisons bonnes ou mauvaises. Et c'est un problème. C'est là qu'il y a un manque de les uns les autres. Si on n'a pas d'église en plus, on risque de se retrouver un peu en difficulté. Les voisins, c'est souvent une source d'ennui. Hein. Alors bon, on préfère ne pas avoir de relation avec les voisins, c'est assez moderne comme idée. Hein. Du coup, l'État même, l'État même a encouragé la création de fêtes des voisins. Merci Ruben. L'idée de fêtes des voisins, parce qu'il voulait... L'État voit bien la nécessité du les uns les autres, qu'on se connaisse. Et je sais que dans mon village, ils mettent des tables sur une rue du village, et puis les gens mangent ensemble, et les gens sont contents. Je sais qu'Olivier aussi, à Épône, le fait. Voilà, les uns les autres, ça joue aussi. Et si on n'apprend pas à s'aimer les uns les autres dans l'église, ça va être toujours un petit peu plus difficile, à force, à l'extérieur. Et puis quoi penser des personnes âgées qu'on découvre mortes? Parfois des semaines ou des mois après leur mort. Alors c'est un peu macabre ce que je vous dis, mais c'est la vérité. J'ai souvent lu ça dans les nouvelles. Et bah oui, parce qu'on ne s'occupe pas des affaires des autres. Et on parlera la semaine prochaine de l'équilibre à tenir entre ne pas se mêler des affaires des autres et aussi quand même prendre soin. Ça fera l'objet de ce qu'on verra la prochaine fois. On avait dit aussi que les autres ne peuvent pas être tout le monde. Quand la Bible parle du les uns les autres, il ne s'agit pas tout de suite du monde entier. Ce sont des gens précis avec lesquels on a déjà des relations privilégiées. Veillez les uns sur les autres, supportez-vous les uns les autres, etc. Ça s'adresse, quand Paul parle de ça, ça s'adresse à l'Église. C'est important de s'en rappeler. Dans le Nouveau Testament, quand on parle de les uns les autres, il y a un cadre, c'est l'Ecclésia. C'est là où Dieu nous éduque pour entretenir des relations avec l'ensemble des humains. En deuxième étape. Première étape, pour parvenir à aimer tous les hommes, même nos ennemis. Et quand je préparais, il y a ce verset qui me revenait tout le temps, parce que je me souviens quand j'avais, je ne sais pas, 14-15 ans, mon pasteur avait prêché sur « élargissez vos cœurs ». J'avais ouvert un peu des yeux ronds, parce que je ne voyais pas très bien ce qu'il voulait dire. Et bon, il a bien expliqué après, « élargissez vos cœurs ». Et je crois que c'est vraiment le travail qu'on doit faire, qu'on doit être prêt à faire quand on appartient à une communauté locale. Évidemment, ça suppose un certain nombre de difficultés, parce que c'est pas facile. 1 Thessaloniciens 5:15 dit « Poursuivez le bien, soit envers les autres, les uns envers les autres, soit envers tous les hommes. » Vous voyez, il y a deux étapes. Là, on le voit bien dans ce passage. Soit les uns envers les autres, il s'agit de l'église locale, soit envers tous les hommes. Alors, Kuhn cite un exemple assez amusant. Ce sont les moines bénédictins. Alors, je ne connaissais pas cette congrégation qui s'appelle les Camaldules. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Ce sont des moines bénédictins qui choisissent d'entrer dans une communauté. On n'y entre pas de force. On a fait un choix bien pensé. D'ailleurs, ça met du temps pour être accepté. Mais en fait... on va dire que cette communauté ne correspond pas au plan de Dieu pour son Église. Pourquoi ? Parce qu'il y a une règle dans cette communauté, c'est le silence. Alors, moi j'ai connu parfois dans mon Église, quand j'étais petite, les grands-mères qui disaient « on ne parle pas dans l'église. C'est sacré, c'est... c'est dommage. Je pense pas que quand Jésus réunissait les gens, il demandait le silence, sauf quand il parlait, mais le reste du temps. La règle du silence fait qu'il n'y a pas d'exhortation mutuelle. Il n'y a pas d'instruction réciproque. Aux heures convenues, les gens sont assis les uns à côté des autres et ils chantent, puis ils retournent dans leurs cellules. Alors, évidemment, Kuhn dit, est-ce que ce n'est pas un peu parfois la tendance, pour différentes raisons ? On peut venir au culte dans la communauté locale, et c'est super, on chante à l'unisson quand même avec les autres, on écoute un sermon puis on repart. Ça permet de ne pas être confronté aux difficultés de communication, de relation. Alors moi, je dois dire que j'ai conseillé ça parfois à des gens en grosses difficultés, qui avaient vécu des grosses blessures, mais c'est quand même qu'une première étape. Et ça m'est arrivé de dire, écoute, tu fais ça, tu viens, tu repars, le temps que les gens guérissent, pardonnent, vivent quelque chose. Mais ce n'est pas un mode de vie chrétien. Ce n'est pas un mode de vie. Et qu'est-ce qui se passerait si tous les gens de la communauté faisaient ça ? On peut se poser la question. Parfois, j'aime bien m'imaginer des situations comme ça. Hein, je disais parfois à mes élèves, imaginez que Jésus ne soit pas venu. Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui ? Imaginez, on raye tout cet épisode de l'histoire du monde. C'est amusant. Amusez-vous à ça, c'est très drôle parce qu'on s'aperçoit de tout ce que ça a changé. Et là, c'est pareil. Imaginons que chaque chrétien dans l'église fait ça. Il vient, il s'assied, il repart. C'est vrai qu'il n'y aurait pas de conflit. Il n'y aurait pas de bavardage inutile. Il n'y aurait pas de calomnie. Il n'y aurait pas de médisance. Il n'y aurait rien. Mais voilà, il n'y aurait rien. La vie serait vite partie. Donc, voilà, on peut faire ça aussi. Et parfois, les gens repartent alors qu'ils sont confrontés à des situations familiales difficiles, mais bon, ils ne peuvent pas échanger. Et c'est sûr, comme je dis, dans ces cas-là, il n'y a pas de risque de désaccord, de friction, de fâcherie, pas de risque d'incompréhension, de jugement ou de critique, de mépris ou de trahison, et surtout d'intrusion dans la vie privée. C'est clair, c'est l'avantage. Mais voilà, il n'y a pas non plus de partage, de soutien, d'amour, de réconfort, de consolation, de prière. Et Dieu sait combien moi j'apprécie de recevoir, de prier pour les gens, mais aussi de recevoir la prière quand il y a des soucis, quand il y a des difficultés. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans l'église. Parce que comme j'avais une famille chrétienne, on priait en famille. Et bon, dans l'église, c'était pas trop la coutume de prier les uns pour les autres. Et comme j'ai apprécié dans l'église d'Aubergenville de recevoir aussi la prière de gens bienveillants, compréhensifs, qui savent consoler. Alors, il n'y a pas d'apprentissage non plus du les uns les autres. Pas d'apprentissage à supporter, pas d'apprentissage à pardonner. C'est dommage. Donc voilà, il faut peser les avantages et les inconvénients. Et même en admettant qu'il y a plus d'avantages à s'isoler, il y a un autre problème, c'est l'ordre du Nouveau Testament. Et vous allez voir, la semaine prochaine, on va aborder tous les ordres. Veillez les uns sur les autres, priez les uns pour les autres, consolez-vous. Dadada. Et alors donc, on ne peut pas obéir à ces 100 commandements qu'on a cités. Alors, c'est gênant quand même, ça fait beaucoup. Hein. Alors, Dieu nous a aimés le premier, on a dit, et nous, il s'attend à ce qu'on l'aime en retour. Et qu'on s'aime les uns les autres, qui est une conséquence directe de l'amour de Dieu. Alors le problème, c'est que l'amour a des définition très différente dans notre monde. Hein. Et alors là, c'est pas moi, mais je relève les exemples que Kuhn a donnés. Un homme qui va quitter femme et enfant pour une passion soudaine pour quelqu'un d'autre, ah mais c'est l'amour. Ah oui. Ah oui. L'amour des parents qui vont tellement gâter leurs enfants qu'ils leur diront jamais non, ou qui vont leur donner tout ce qu'ils veulent, ou je ne sais pas, leur faire leurs devoirs, ou je ne sais pas, enfin faire tout pour eux, ça peut sembler de l'amour. Ça peut sembler de l'amour. Mais on peut se poser la question. Est-ce que c'est vraiment l'amour ? Parce que d'après la parole de Dieu, l'amour, ce n'est pas faire les quatre volontés, c'est chercher le bien à long terme. Et ça, ce n'est pas facile. Et c'est beaucoup plus facile de céder. Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, vous avez un gamin qui demande un truc. Bon, c'est pas bien méchant. Puis il vous a à l'usure, quoi. Bon, oh, si c'est pour un petit truc, c'est pas bien grave. Ah, je sais bien quand les enfants étaient à la maison. Mamie, on va à la piscine, on va à la piscine. Bon, écoutez, Tati Flo, elle n'est pas disponible avant 5 heures. Oh, on va. Bon, puis à la fin, bon, allez, descendez. Et c'est pauvre Flo qui devait se continuer le problème. Mais voilà, vous savez, c'est pas bien méchant. Mais on avait fixé 5 heures et bon, voilà, c'est pas grave. Mais vous savez, ils peuvent nous avoir à l'usure. Hein, et les jeunes, n'en profitez pas de ce que je dis. N'allez pas dire que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Vos parents sont là. Hein. Bon, l'amour, pour certains, c'est posséder, jouir, exiger des choses. Sinon, l'amour se change en haine. Tu ne m'as pas donné ce que je voulais, tu ne m'as pas donné ce que j'exigeais. Du coup, c'est un amour extrêmement égocentrique, qui se limite parfois à l'éros, au désir. Eh bien, ce n'est pas ça, l'amour de Dieu. Même l'amour très compréhensif, enfin trop compréhensif des parents, ce n'est pas ça, l'amour de Dieu. Le véritable amour ne veut pas avant tout être heureux, mais rendre heureux. Il cherche le bien et l'épanouissement de l'autre avant notre intérêt. Et ça, c'est pas facile d'aimer les gens comme ça. Parce que chercher le bien et l'épanouissement de nos enfants suppose toute une éducation où il va falloir dire non. Et contrairement à ce que les adolescents peuvent penser, ça leur fait de la peine à vos parents quand ils sont obligés de vous dire non. On en reparlera le dimanche. C'est pas facile, parce qu'ils aimeraient bien pouvoir vous dire oui toujours. Et Alfred Kuhn parle de son fils, que d'ailleurs André a bien connu. Et il devait aller à une fête avec des jeunes, il avait 18 ou 19 ans je crois, et sa maman a dit non, elle sentait que c'était vraiment pas sa place. Et oh là 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 là, la guerre. Il dit ça a été dur, mais quelques mois après, il a dit à ses parents, vous avez rudement bien fait. Parce qu'il y avait des raisons, je pense, il les donne pas, mais je pense qu'il y avait des raisons. Donc vous voyez, parfois, vos pauvres parents sont obligés de vous dire non et ça leur fait aussi de la peine parce qu'ils voient votre bien plus tard. Oh là là, terrible d'être parent. Le véritable amour cherche le bien et l'épanouissement de l'autre avant son intérêt. Un psychologue dit ceci, l'amour est la valorisation de l'être aimé et faire passer son bien avant les autres choses. Tout pour lui faire plaisir, pour contribuer à son bonheur. Mais pas lui faire plaisir en le sens de tout lui accorder. Alors on pense à l'amour maternel, l'amour filial, l'amour conjugal, qui dans certains aspects va ressembler à l'amour de Dieu, parce que Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux pour notre salut éternel, Jésus pour notre salut éternel. Et notre amour, il peut ressembler à celui de Dieu. Et Dieu, qui pour nous au début pouvait être une idée abstraite, va alors prendre une valeur suprême. Et là, on va le faire passer en premier, même avant tout ce qui nous est agréable à nous, pour être agréable à lui et pour sa gloire. Donc il y a un moment où vraiment Dieu nous a tellement aimés qu'on reconnaît ça et on est capable de dire « Je fais passer l'amour pour toi avant ce que j'ai envie, avant mes intérêts, avant ceci, cela ». Et ça, c'est une étape pas facile, mais c'est une étape importante dans la vie chrétienne. Et Dieu nous demande la même chose que lui, il a fait pour notre prochain. Il demande qu'on fasse la même chose à notre prochain. Et là, la définition d'un psychologue est loin de suffire. Il faut considérer comment l'amour de Dieu a été vécu par Jésus et comment les apôtres en parlent. Parce que la définition des psychologues, vous voyez, c'est plein de bon sens, c'est super, mais ça ne suffit pas. Ce qu'on est appelé en tant que chrétien, regardez, c'est comment Jésus a mis en pratique cet amour et comment les apôtres en ont parlé. Et là, on va arriver à ce que je vous ai promis. Jean 13, 34 dit que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Ah, comme. Oula, ça me fait peur là. Être capable d'aimer les autres comme Jésus nous a aimés. On a envie de baisser les bras, de dire « de toute façon, je n'y arriverai pas ». Donc, ce n'est pas la peine de commencer. Et pourtant, Éphésiens 5, 2, je vais quand même le lire, c'est important. Oui, Éphésiens 5, 2, on va juste le lire. « Imitez donc Dieu ». Oh là là, c'est exigeant ça. Comme des enfants bien-aimés, vivez dans l'amour, tout comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice. comme un parfum de bonne odeur. Imitez donc Dieu. Alors on va regarder un peu comment Jésus aimait les gens. Chaque homme rencontré avait une valeur unique. Pourquoi est-ce qu'on aime bien lire les évangiles? Si vous ne les avez pas lus, commencez à les lire. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Oh, loupez pas ça. Et regardez chaque rencontre de Jésus avec quelqu'un. En pensant à comment ça se passait à cette époque-là. Hein. Comment il s'est comporté envers les Juifs, envers les Samaritains, qui étaient des gens qui avaient une très mauvaise théologie, qui étaient vraiment à côté de leur godasse, comme on dit, dans plein de domaines. Ils allaient adorer un autre endroit, ils avaient fait tout un tas de syncrétisme, de mélange. Et comment il traite les Samaritains? Il va même jusqu'à les porter en exemple dans leur comportement. Les païens. Oh, à l'époque, les Juifs ne fréquentaient pas les païens. Il y avait une distance, hein. On ne mangeait pas avec un païen. Jésus va manger. Et d'ailleurs, on va lui reprocher, les Juifs vont lui reprocher. Les lépreux. Eh bien, les lépreux, c'était les règles sanitaires de l'époque. Ils n'avaient pas le droit de vivre dans la ville. Ils devaient crier lépreux quand ils passaient. Il ne fallait pas les toucher, etc. C'était bon, des règles qu'on comprend. Mais Jésus les a aimés, leur a parlé, les a guéris. Le paralytique ou le bien portant, l'homme libre ou l'esclave, le riche ou le mendiant, qu'il soit méritant ou pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez de My Fair Lady où il y a une chanson sur les gens méritants. Et le papa de la petite actrice dit « Moi, je ne suis pas un méritant. » Parce qu'il fait n'importe quoi de sa vie. Il boit, il ne travaille pas. Et Jésus n'a pas regardé si les gens étaient méritants ou pas. Femme ou homme, cananéenne ou juive. Vous vous rappelez la cananéenne? Et en plus, il lui dit « Ah, mais moi, je suis venue pour les juifs. » Et elle est fantastique, cette femme. Elle dit, elle se vexe pas. Moi, je trouve vraiment, elle avait de l'aplomb. Elle dit « Oh, c'est pas grave. Les petits chiens, ils mangent les miettes sous la table. Tout ce que je veux, c'est une miette, mais j'aurai ma miette. » Waouh. J'aimerais bien avoir cette foi. Voilà, Jésus s'adresse à tout le monde. Et Kuhn insiste sur le fait qu'il porte beaucoup plus d'attention à l'homme paralysé. Vous vous souvenez, quand ils ont ouvert le toit, ils ont descendu cet homme paralysé et Jésus était sous pression. Et nous, chrétiens, parfois, on est sous pression. Le qu'en dira-t-on? Le regard des autres? Les jugements qu'on porte sur nous? Est-ce qu'on va craquer? Jésus n'a pas craqué. Il a vu cet homme paralytique. Il ne s'est pas occupé du regard plein de colère des pharisiens qui attendaient un moment pour le coincer. Il a dit, tes péchés sont pardonnés. La chose à ne pas dire devant les pharisiens. Mais ce qui comptait pour lui, c'était cet homme, pas sa réputation. Alors il y a pire. Il ne regarde pas à la haine ou au complot des hommes religieux. Mais alors à la synagogue, là il a fait encore plus fort, c'est un jour de sabbat. Un homme avec la main atrophiée arrive. Et Jésus, qu'est-ce qu'il voit? Alors moi, je ne sais pas comment il a pu faire, mais il a complètement laissé de côté la prudence. Jour de sabbat, dans une synagogue, il regarde cet homme qui souffre et il ne s'occupe pas de sa réputation. Il ne s'occupe pas du qu'en dira-t-on. Il ne s'occupe pas surtout que ces hommes n'ont qu'une idée en tête, le coincer pour pouvoir le tuer. Parfois, on tue les gens avec des paroles. Mais quand on est chrétien, on n'a pas à en tenir compte. C'est Dieu qui règle ça. Et on s'occupe des gens les uns les autres. Et cet homme qui souffre, eh bien, il va le guérir devant tout le monde, en laissant de côté la prudence au risque de se faire tuer. Il ne calcule pas. Alors moi, je ne sais pas, j'aurais peut-être quand même dit, oui, bon, ben, je vais le prendre à part à la sortie pour ne pas le guérir devant ces gens qui n'ont qu'une idée. C'est... Bon, ben non, il ne calcule pas. Étends ta main, étends ta main. Il étend sa main, il est guéri. Il ne s'occupe pas du qu'en dira-t-on. D'ailleurs, je ne sais pas comment ces hommes pouvaient avoir envie de tuer Jésus. C'est ça. Moi, parfois, ça me dépasse, mais bon. Il y avait des raisons, bien sûr, mais ça me dépasse. Luc 14, 12, on a une autre histoire, un homme couvert d'œdème, et c'est encore un jour de sabbat. Et c'est pire, c'est dans la maison d'un pharisien cette fois-ci. Ces gens qui passaient leur temps à chercher à le coincer pour pouvoir le tuer. Eh bien, c'est dangereux, oui, Mais Jésus guérit cet homme parce qu'il regarde la personne qui a besoin. Il ne regarde pas ce qu'on raconte sur lui, les mensonges qu'on raconte sur lui, les méchancetés de toutes sortes, les complots pour le virer, pour le tuer. Il regarde l'homme qui a besoin. Et c'est ce qu'on est appelé à faire en tant que chrétien. Et ce n'est pas facile. Au boulot, dans notre environnement, parfois hostile, regardons la personne qui a besoin. À l'école, c'est extrêmement difficile. Parce qu'on est sensible au regard des autres. Et se dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont se moquer de moi, ils vont... Mais si vous faites ce que le Seigneur vous demande, vous serez tellement content. Vous savez, il y a quelque chose d'incroyable de faire ce que Dieu nous demande, même quand on est sous le regard, des regards méchants, bah, tant pis. Si on fait ce que Dieu nous demande, on est tellement heureux. Et du coup, ça nous aide à supporter les méchancetés des uns ou des autres. Donc, pensez-y à l'école quand Dieu vous demande quelque chose. Faites ce que Dieu vous demande. Vous verrez, vous serez tellement plus heureux. Et en parlant de cet amour de Jésus, qu'on est appelé à imiter, oh là là, l'apôtre va parler des fameuses quatre dimensions. Largeur, longueur, profondeur, hauteur. Et je vous ai dit la semaine dernière, moi je ne voyais vraiment pas où il voulait en venir, si ce n'est que ben, l'amour de Dieu est immense. Mais en fait, non. Qu'une a trouvé vraiment des choses qui m'ont beaucoup parlé. La largeur. Eh bien, la largeur, si vous faites ce geste, hein, en général, c'est la largeur. On peut dire aussi la longueur, enfin là, c'est la largeur. Eh bien, Jésus, il était large dans sa façon d'aimer les autres. Il les aimait tous. Largeur énorme. À commencer par ses parents, qu'il ne comprenait pas. Ah ben, vous voyez, vous n'êtes pas les seuls, les jeunes, là. Ses parents ne les comprenaient pas. Ne le comprenaient pas. Ah ben, il y a de quoi, hein. Après avoir été charpentier 30 ans, il vous annonce qu'il va courir toutes les villes, guérir les malades, pardonner les péchés. Au secours! Ils ont même dit qu'il était fou, ils sont allés le rechercher. Il a répondu, qui est ma mère, qui sont mes frères. Ses parents. Et puis, la largeur va jusqu'aux disciples. Ils sont tellement lents à croire et à comprendre que parfois il leur dit, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Lui, il sait ce que c'est, supportez-vous les uns les autres. Ses adversaires pharisiens, sadducéens, ces hommes religieux bloqués dans leur supériorité religieuse, il a tout fait pour les faire sortir de leur aveuglement, jusqu'à les gronder. Bah, fallait oser, hein, parce qu'il risquait sa vie. Il l'a risqué sa vie, il l'a donné. Mais il l'a fait aussi pour que ces gens-là sortent de leur aveuglement. Fallait beaucoup de courage. Même s'il a dû les heurter parfois avec des profondes vérités. Alors, bien sûr, cette largeur, ça va jusqu'aux lépreux, les parias, les publicains, les femmes rejetées par la société, et même, sur la croix, un brigand condamné à mort. La largeur de l'amour de Dieu. Il nous appelle à aimer largement. Et on va commencer par l'église locale, sa famille et l'église locale. Première étape vers le reste. Ceux qui nous aiment ou ceux qui ne nous sont pas sympathiques, ceux qui nous ressemblent, ceux qui répondent positivement à notre amour, ça c'est plus facile, mais... Ceux qui ne répondent pas positivement, ceux qui même profitent de votre gentillesse pour vous tirer dans le dos, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Dans l'Église comme ailleurs, parce que dans l'Église, c'est des humains. Et Dieu nous appelle à avoir cette largeur, aimer même les gens qui nous font du tort. Heureux serez-vous quand ils diront de vous toutes sortes de mal. Ouh ! Heureux serez-vous. Oui, parce que notre bonheur n'est pas dans le regard des autres. Il est dans le regard de Dieu. Dites-vous ça à l'école. Votre bonheur est dans le regard que Dieu porte sur vous. Et Dieu a les yeux sur vous à l'école, au travail. Et votre bonheur est dans le regard que Dieu pose sur vous, pas dans le regard des autres. Parce qu'aujourd'hui, ils vous aiment bien, demain, ils ne vous aimeront plus. Le troisième jour, ils vous aimeront de nouveau. Vous savez comment c'est. Mais le regard de Dieu, il ne bouge pas. Toujours plein d'amour et de compassion. Heureux serez-vous, oui. Parce que ce n'est pas les autres qui nous rendent heureux, c'est le Seigneur. Et ben, moi, j'ai vu vivre ça par ma sœur qui est au travail. Alors, désolée, Noëlla, mais c'était une injure dans son travail. Ils l'ont traitée d'assistante sociale. Parce qu'elle prenait soin de ses élèves. Elle faisait de la formation pour les cadres, au cours de cadres. Elle formait des gens pour devenir cadres. Et évidemment, elle prenait soin de leurs horaires, de leur famille, de leur santé, parce qu'elle était chrétienne, parce qu'elle aime les gens. Et alors, quand ils en avaient marre, la direction, « Ah, vous n'êtes qu'une assistante sociale !» Désolée Noëlla, hein, franchement. Mais voilà, voyez pourquoi, comment un truc super peut être mis même un truc comme ça, peut être pris de travers et transformé en injure. Pensez aux missionnaires. Je me souviens qu'André s'est converti, ses parents l'ont traité de fanatique. Ah. Illuminé, il y en a d'autres qui vont traiter de vieux jeux, moralité d'un autre âge, etc. N'ayez pas peur de ça. Gardez votre amour large. Ne fermez pas vos cœurs devant les injures, devant les choses qui se font dans votre dos. Gardez votre cœur ouvert. C'est pas facile, mais Dieu vous aide. Dans l'église locale, il y a des gens sympathiques et souriants. C'est le cas de tout le monde ici, bien sûr. Qui ont le contact facile. Mais il y a aussi des gens qui sont plus renfermés, plus timides, moins sociables. J'en connais deux ici. Moins communicatifs, mais voilà, des gens qui n'ont pas la même éducation, la même culture. Alors élargissons nos cœurs. Et l'église locale, elle est faite pour ça. C'est aussi pour ça que je ne suis pas, je ne critique pas, mais je ne suis pas trop favorable aux églises ethniques. Des églises toutes blanches ou des églises toutes asiatiques ou des églises toutes africaines. Non, non. Je pense qu'on peut élargir nos cœurs dans une église où il y a beaucoup de gens différents. Et c'est un bonheur d'avoir auprès de nous des Asiatiques, des Africains, des Antillais, des Français. Mais c'est merveilleux, des Colombiens, ouais. C'est formidable. Parce que là, on peut élargir nos cœurs. Puis on s'aperçoit que ce sont des gens chouettes. Hein ? On a des bonnes surprises en général. Alors aimer, bien sûr, c'est pas tout approuvé, mais ça, on va en parler la semaine prochaine. Il ne s'agit pas de transformer les gens en enfants gâtés, tout permettre, tout accepter, mais c'est chercher le bien de l'autre. Et j'ai oublié de vous apporter, j'avais une image sur un journal catholique de les paroisses autour de chez moi, où on voit deux personnes qui ont les bras comme ça, et le commentaire c'est « Le coronavirus nous a rapprochés en nous rapprochant de la croix ». Qu'il faut, la distance. Voilà. C'est pas bête. La longueur. Alors, la longueur, ça fait penser, alors moi, franchement, j'y avais pas pensé, à la durée. C'est long, ça dure. Et l'amour de Dieu a cette durée, cette persistance. L'amour de Jésus, c'est pas un feu de paille qui vous aime aujourd'hui, qui vous aime plus demain, et puis qui vous aime le troisième jour. C'est pas un feu de paille. Il est pas capricieux, il est pas changeant. Il dépend pas de l'humeur du moment. Il n'est pas découragé par les obstacles ou l'indifférence. Il dure. Il dure. Et moi, enfin, je pense à Pierre, hein, on aime bien tous l'apôtre Pierre. Comment Jésus a été patient? Il l'a toujours aimé autant, même après qu'il l'ait trahi. C'est un bon exemple pour tous ceux qui se sentent trahis par des amis, par de la famille, par des copains à l'école, etc. Pierre a trahi Jésus. Jésus l'a toujours autant aimé. Il ne lui a pas donné raison. Hein. Il l'a simplement aimé autant. Mais jamais il a abandonné Pierre. Et c'est pareil pour tous les autres disciples. Alors ce verset merveilleux, Jean 13, verset 1, « Il les aima jusqu'à la fin. » Ça donne une idée de la longueur de l'amour de Dieu. Et la taupe dit jusqu'à l'extrême, la croix. Ça nous donne une idée de ce que Jésus a fait. Il nous aime, il a dit jusqu'à la fin du monde. Pour la longueur, là on est gâtés. J'ai le temps de faire la profondeur. Alors, tant pis, il vous en manquera un, il sera la semaine prochaine. On va faire la profondeur. La profondeur, eh bien, c'est parce que ce n'est pas un amour superficiel. Ça, c'est déjà plus facile à comprendre. C'est pas un amour qui ne voit que ce qui est apparent. Il a pensé à tous les besoins des hommes. Alors, quelques exemples. Ces gens qui l'ont suivi pendant des heures, mais ils ont faim, ils ont soif. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y pense! Parce que son amour n'est pas superficiel. Écoutez mes discours, regardez mes miracles, puis bon, j'en ai rien à faire si vous crevez de faim. Non, non, il pense à l'estomac des gens, il pense à leur vie. Regardez sa compassion envers les veuves et les orphelins, qui étaient exploités par les pharisiens. C'est un autre sujet, mais si vous regardez la Bible, vous verrez. Ses enfants scandalisés, qui disent, ah, il faut mieux s'accrocher une pierre de moulin que de scandaliser un de ses petits, plus petits et de se jeter dans l'eau. Voilà, ceux qui ploient sous les fardeaux, qui sont imposés par les docteurs de la loi, disent, oh, ils ne sont pas prêts à soulever les trucs du petit doigt, mais alors vous, ils vous en imposent. Voilà, ils pleurent avec ceux qui pleurent, avec ceux qui sont haïs, ceux qui sont persécutés. Et c'est vrai que quand on vit des persécutions, ce n'est pas évident à s'en rendre compte. Moi, je me souviens qu'André et moi, on a fait un stand biblique et qu'on se faisait taper dessus et déchirer les Bibles. Ah, dans une annexe de la Sorbonne, c'est pas facile à vivre. Je vous avoue que quand je lis « Heureux serez-vous quand on vous persécutera », j'ai eu du mal à être heureuse, hein, parce qu'on est humain. Mais quelque part, j'avais aussi le sentiment de faire ce que Dieu me demandait. Et c'est ça qui est merveilleux, mais c'est quand même, c'est dur à vivre. Il va pleurer avec ceux qui sont haïs et persécutés. Aux disciples fatigués, il lui dit « Venez à l'écart et reposez-vous un peu ». Ah bon ? Et pourtant, il faut faire avancer le royaume de Dieu, etc. J'ai que 3 ans de ministère, les gars, il faut faire vite. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Waouh, ça parle. Il a conscience de la peine provoquée par la remarque de Judas à Marie. Alors ça, j'y avais jamais fait attention. Mais vous vous souvenez, cette femme qui a un parfum qui vaut je ne sais pas combien de mois de salaire, elle le verse sur les pieds de Jésus devant tout le monde. Et puis naturellement, notre brave Judas ne trouve rien de mieux à dire que on aurait mieux fait d'utiliser cet argent pour autre chose. Toujours des gens comme ça. Hein. Et on aurait mieux fait, Yaka, Faucon. Et Jésus comprend ça. Il comprend. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais cette femme, elle a déjà donné le parfum pour l'embaumement. Et franchement, il a senti qu'elle avait été blessée. Il a tout de suite répondu. Il y a pensé. Il n'a pas dit, oh, c'est Judas, c'est pas grave, de toute façon, c'est lui qui va me trahir à la fin, vous en faites pas, les gars. Non, il a pensé à la souffrance de cette femme. Et ça, c'est Jésus. Il pense à votre souffrance. Il n'est pas indifférent. Et puis, il a discerné, alors j'aime bien, les hésitations de Nathanaël sous le figuier. Il dit, ah oui, là, je t'ai vu sous le figuier. Tu pensais ça, Nathanaël? Il discerne les choses. Les aspirations de la Samaritaine au puits de Jacob, rien n'échappe à son regard, à sa sollicitude. Il sait que l'homme a besoin d'être libéré du péché et réconcilié avec Dieu. Il a décidé d'être, lui, cette rançon, cette victime expiatoire. Jean 13, verset 1. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il a mis le comble à son amour. Éphésiens 5, 25. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Du coup, nous aussi, on est appelés à aimer l'Église avec tous ses défauts. Alors, il ne s'agit jamais de dire « Oh, l'Église n'a pas de défauts ». Mais oui, il faut le reconnaître. L'Église a des défauts. Chaque Église locale a son lot de défauts. Parce qu'on est dedans. La croix nous révèle complètement la profondeur de l'amour de Jésus. Donc, pensons à ça dans nos circonstances de vie. Moi, ça m'aide beaucoup. Dans les moments difficiles, de se dire « Le regard de Jésus est sur moi ». Et moi, je dois garder mon regard sur lui et continuer à le servir, quelles que soient les circonstances. Bon, nous, on a bien commencé notre ministère avec André en se faisant taper dessus au stand biblique. On a peut-être eu le baptême du feu, mais au moins, on a appris à le servir. Peu importe ce qui peut se dire ou se faire. Parce que ce qui est important, c'est les gens qui souffrent, c'est les gens qui vivent des choses difficiles. Et on est là pour ça. Et le Seigneur est là pour vous. Seigneur, veuille bénir chacun d'entre nous, qu'on puisse arriver, Seigneur, à progresser. J'ose à peine dire imiter, parce que ton exemple est tellement extraordinaire, mais progresser dans l'imitation de ton amour, sa largeur, sa profondeur, et puis on verra la semaine prochaine sa hauteur, sa longueur. Que vraiment, Seigneur, tu nous aides à progresser, parce que tu sais que c'est pas facile. Mais viens à notre secours. Et merci pour ton regard bienveillant sur nos vies. Quand on souffre, quand on a besoin de consolation, quand tout va bien et que tout le monde est content, dans tous ces moments, ton regard est sur nous. Merci Seigneur. Amen.